à Tite, c'est dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est une courte lettre écrite à Tite pour lui donner des conseils pour comment il peut travailler dans une situation qui était très difficile. Et on a vu, n'est-ce pas, on a vu que la lettre entière enseigne quatre choses en gros, d'accord? La gloire de Dieu. Dieu veut soit glorifié à travers une église transformée et sanctifiée, au travers des anciens qui sont assez établis, qui sont mis dans leur fonction, et pour le but qu'on a une communauté qui est évangélisée. Ce sont les quatre grandes idées. Et jusqu'à ce point-là, nous avons vu que Dieu veut accomplir son but dans l'Église à travers les hommes qui servent comme des pasteurs, des anciens. Ils sont des personnes qui sont matures d'un certain niveau dans la foi. D'accord? Parce que qui veut avoir l'aide de quelqu'un qui sait moins qu'eux? Souvent, j'ai dit, quand j'étais jeune, je jouais au basket. Et quand j'ai commencé, je voulais vraiment avoir la capacité de faire le free throw. D'accord? Et j'ai jamais demandé l'aide de quelqu'un qui a réussi 40% du temps. D'accord? Ça ne vaut pas la peine. J'ai demandé aux gens qui 80, 90, même 95% du temps, ils ont réussi de marquer le but. Pourquoi je leur ai demandé? Parce qu'ils étaient déjà matures dans le basket. C'est la même chose dans l'église. On ne peut pas demander à un enfant d'être notre ancien. Les deux choses ne vont pas ensemble, hein? Un jeune ancien comme ça. Et on a vu ça dans le texte. Et maintenant, on va considérer un texte qui nous parle de l'Église en danger. Ça, c'est notre texte ce matin. Ce sont les versets 10 à 16. Mais on va commencer la lecture en Tite, chapitre 1. On va commencer le verset 9. D'accord? Et là, il écrit ces mots. Les anciens doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Le prochain mot dans le grec, c'est car. Car. Et ce sont dans la traduction que j'ai devant moi, c'est en effet. En effet, il y a surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, des personnes de Crète, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ce sont les paroles de Dieu pour nous. Et la question à commencer, d'accord, c'est quel est le danger, quelle est la menace la plus grande pour l'Église? Souvent, quand on a cette idée d'une église en danger, on pense d'abord à la persécution, n'est-ce pas? Ah, ça c'est grave. Si un gouvernement décide d'être contre l'église, ça sera la chose la plus grave qu'on peut avoir. Mais en fait, ce qu'on voit dans la Bible et dans l'histoire de l'église, c'est que la persécution produit une église qui est plus forte et qui répond plus loin. Donc, on doit faire attention. La persécution externe n'est pas le danger le plus grand. On peut penser peut-être ce sont des famines, des choses comme ça qui approvisionnent l'Église. Mais encore une fois, on voit dans la Bible, en Actes, qu'il y avait des gens très très pauvres qui n'étaient pas faibles dans la foi. Et en fait, l'Église a continué à grandir, à répondre. Je pense que ce qu'on voit même dans la vie normale, c'est que souvent, la menace la plus grande, c'est la menace de l'intérieur. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a deux récits qui sont très intéressants. Le premier se trouve dans le premier chapitre du livre des Juges. Et il raconte la fois où une tribu d'Israël a attaqué la ville de Bethel. Bon, les soldats israéliens ont capturé un homme de la ville, et cet homme, pour sauver sa vie et la vie de sa famille, les a montré une façon secrète par laquelle les Israélites pouvaient entrer dans la ville. Par cette trahison, la ville a été prise. Je peux imaginer les gens dedans, derrière les grandes murailles. Ah, le grand danger, c'est où? C'est là, dans l'armée qui est externe, qui est dans l'autre côté de notre grand mur. Mais en fait, la menace le plus grand était dedans, la trahison. En 2 Samuel 20, nous lisons de la rébellion d'un homme qui s'appelle Sheba. Il a pris son refuge dans une ville entourée par les remparts parce qu'il craignait l'armée d'Israël. Mais il fallait craindre les résidents de la ville plus que ça. Parce qu'il y avait une femme sage dans la ville qui a terminé la situation quand elle a offert de remettre Sheba à l'armée attaquante. Et la ville assiégée a été sauvée quand la ville a délivré Sheba à David. Sheba pensait que, bon, le danger c'est dehors, mais en fait, c'est à côté. Et pour l'Église, c'est la même chose. L'Église n'a rien à craindre de ceux qui sont externes. Jésus a dit, je vais bâtir mon Église. Nous avons besoin de faire attention aux problèmes dans l'intérieur de notre Église. Et surtout dans cette épître, dans ce passage, on voit que le problème, c'est surtout lié avec l'enseignement. Comme dans les histoires citées, la menace la plus importante pour l'Église vient de dedans, c'est la fausse doctrine. Et ce matin, nous allons considérer notre passage en trois parties, d'accord? On va travailler ensemble le passage, on va identifier la menace. On va voir quels sont les résultats de la menace et on va voir ensemble quelle est la réponse à la menace. D'accord, quelle est la menace? Il faut identifier le problème, le danger pour l'éviter, n'est-ce pas? Et on va dire que l'identification de la menace, c'est le syncrétisme, c'est-à-dire quoi? C'est le mélange de vos de vrai et de faux. Quelle est la nature de la fausse doctrine? Et elle est syncrétiste, d'accord? Elle est syncrétiste. Elle est un mélange des choses qui sont vraies et qui ne sont pas vrai. On va voir ensemble le passage. Quelle était la situation de cette époque-là? D'accord? Au verset 10, vous pouvez regarder dans vos Bibles, au verset 10, Paul dit que les faux enseignants font partie des circoncis. Cela veut dire quoi, circoncis? Ça dit qu'il vient d'un contexte juif. D'accord? C'est tout. Hein? Parmi les autres versions françaises, nous trouvons ces traductions. Les chrétiens d'origine juive, ça c'est le français courant. Les gens issus du judaïsme, ça c'est le semeur. Et on trouve le même mot utilisé en Galates chapitre 2 et les versets 12, Galates 2, 12, pour décrire ceux qui ne voulaient pas que les chrétiens juifs mangent avec les chrétiens non-juifs. D'accord? Parce que, on connaît tous peut-être, mais sinon, un peu de contexte, les juifs, ils avaient beaucoup, beaucoup de règles. D'accord? Et l'une des règles, c'est qu'un juif ne peut pas manger, partager un repas avec un non-juif. Donc, aujourd'hui, si ça c'était toujours le cas, un juif ne peut pas manger chez moi, il ne peut pas m'inviter chez lui. Et on le voit en acte, parce que Pierre, quand il est allé voir un soldat romain, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez que normalement, je n'ai pas le droit d'entrer dans ta maison et manger avec vous. D'accord? Ça, c'était la règle. Mais Jésus-Christ a dit non, ça c'est fini, il n'y a plus juif, non-juif, maintenant il n'y a qu'un seul peuple d'Église. D'accord? Et soit juif, soit païen, non-juif, vous mangez ensemble, vous chantez ensemble, vous priez ensemble. C'est fini les divisions. Mais il y avait des juifs qui ont dit non, on veut importer dans l'évangile certains aspects de nos règles. Ça, c'était le syncrétisme. D'accord? C'était un syncrétisme juif. Ensuite, au verset 14 dans vos Bibles, pour mention des fables judaïques. Bon, nous n'avons pas tous les détails, mais nous pouvons noter deux choses. Premièrement, l'enseignement est juif dans sa nature. Les fables sont judaïques. Ce ne sont pas les fables d'Ésope, les fables de la fontaine. D'accord? C'est les fables de Ben... quelqu'un, je ne sais pas, Joseph. Et deuxièmement, cet enseignement n'est pas basé sur la révélation claire de la Bible, parce que le mot fable parle d'un récit dans lequel l'imagination intervient pour une grande part. Vous voyez, quand on parle des fables, on ne parle pas de ce qu'on a découvert parce que Dieu l'a révélé. On utilise notre imagination pour arriver à voir une histoire, un récit. Donc, et une troisième indication que c'est judaïque se trouve dans le troisième chapitre, titre 3, le verset 9, où Paul dit « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. » D'accord? Et quand il parle de la loi, il ne parle pas de la loi des Crétois, la loi romaine, c'est la loi juive, et surtout mosaïque, qui déterminait la vie des Juifs. Donc, il semble clair qu'une partie du danger était liée à la loi mosaïque. Et cet aspect juif l'a rendu plus dangereux parce que l'enseignement de Jésus et des apôtres était que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Vous voyez, on a le syncrétisme, l'évangile de Jésus-Christ, et on va ajouter un petit peu des choses judaïques. Et quel est le danger? Parce que qui veut dire que l'Ancien Testament, qui est appelé les oracles de Dieu, est mauvaise?
personne dans l'église veut le dire, hein? On n'ose pas. Et c'est vraiment difficile de voir comment le syncrétisme est difficile et dangereux pour la vie de l'église. Ça, c'est une partie de la nature de la fausse doctrine. Deuxième aspect de la nature de la fausse doctrine, c'est qu'elle est spéculative. Spéculative. On a déjà vu ça un peu, mais quand il parle des fables, on parle de beaucoup d'imagination et peu de données, peu de faits. Et souvent dans l'enseignement qui a beaucoup de syncrétisme, il y a beaucoup de spéculation aussi. Pourquoi Paul interdit au chapitre 3, le verset 9, les généalogies? Les généalogies ne sont pas en elles-mêmes une mauvaise chose. On a les généalogies de Jésus-Christ dans les évangiles. On a des personnes, peut-être même dans cette salle, qui aiment faire les généalogies pour leur famille, pour voir quel est notre arbre de famille. Hein. Pourquoi il a dit « Discutez pas des généalogies ». Il semble que chez certains juifs, les généalogies ont été utilisées pour arriver aux conclusions spéculatives. Paul, quand il a écrit à Timothée, en chapitre 1, les versets 3 et 4, 1 Timothée, il a dû dire « Je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi, qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. » La spéculation, c'est vraiment attirant, n'est-ce pas? Oh, peut-être ça, peut-être ça. Oh, et si A, c'est vrai, peut-être nous pouvons arriver à B, et à C, et à D. Mais de plus qu'on s'éloigne de ce qui a été écrit, de plus qu'on entre dans le danger d'accepter les choses qui ne viennent pas de Dieu. Et le troisième aspect de la nature qu'il faut noter, c'est qu'elle détrône de la vérité. On voit où elle arrive. L'aboutissement de ce train, le terminus, n'est pas la vérité. C'est la fausseté. Si on veut, ce matin, j'ai pas prêché. Je ne prêche pas ce passage parce que j'ai découvert au sein de l'Église des faux prophètes. Et maintenant, je vais les confronter. Non, c'est écrit, mais pour nous devons avoir cette sagesse. Comment reconnaître l'enseignement qui est faux? Bon. Est-ce qu'elle ajoute des choses à l'Évangile? Est-ce qu'elle a beaucoup de spéculation? Et si on voit l'aboutissement, est-ce qu'on voit que ça termine loin de la vérité qui est révélée? Si on voit ces choses dans une doctrine, dans un groupe qui donne les doctrines, il faut l'éviter. Il faut la confronter. Parce que ce n'est pas la bonne doctrine et c'est un danger. Mais parfois, c'est assez difficile, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile de voir comment la doctrine, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne. Donc comment on peut découvrir? Parfois, on peut le découvrir quand on voit le caractère de ceux qui enseignent. Et Paul, il parle beaucoup des personnes, il dit, ils sont des rebelles. D'accord. Si vous avez quelqu'un qui veut être le dirigeant et il enseigne quelque chose qui semble être un peu pas juste, et vous voyez en lui-même un esprit qui ne peut pas se soumettre aux autres. C'est pas un bon signe. C'est un mauvais signe. Les rebelles contre l'autorité de la Bible, contre l'autorité de ses pasteurs, un homme comme ça, souvent, est un homme qui prêche une fausse doctrine. Faisons attention à l'insubordination dans les dirigeants d'un enseignement comme ça. Souvent, ils sont, dans notre texte, il dit les 20 discoureurs. Cela veut dire quoi? C'est deux mots. Hein? C'est mots infructueux. Quand vous regardez ce qu'ils disent, ils disent beaucoup de n'importe. Hein? Leurs mots semblent être très vagues souvent. Hein? Ils promettent beaucoup de choses, mais sans détail. Et aussi, il promet beaucoup de choses, mais le fruit n'est pas là. Quand vous regardez ceux qui ont accepté, adopté leur enseignement, vous ne voyez pas le fruit de l'esprit. Vous voyez quoi? Rien. C'est vain. Et c'est pas là. Donc, comment détecter les faux docteurs? Sont-ils des rebelles? Continuels? Sont-ils des personnes qui vivent vraiment, il dit rien. Il parle beaucoup, mais il dit rien. Et il n'y a pas le fruit qui vient avec leur enseignement, le fruit de l'esprit. Ils sont des vains discoureurs. Et ensuite, ils sont des, dans notre traduction, séducteurs. Le mot parle de la tromperie. Ils utilisent la tromperie pour gagner les adhérents. Il ment, d'accord? Ça, c'est la seule chose qu'on peut dire. Il ment. Et il y a un mot qui partage la même racine qui se trouve en Hébreux 3, le verset 13, où l'auteur parle de la séduction du quoi? Du péché. Qu'est-ce que fait le péché? Le péché dit, vous serez plus contente, vous serez plus heureux si vous péchez. Ça, c'est la séduction. C'est un mensonge, parce que qu'est-ce qui arrive après? Souvent, même si on a du plaisir pendant quelques moments, après on a des regrets et on a des conséquences, n'est-ce pas? Et parfois, les conséquences durent pendant les années et les années et les années. Et donc, juste un petit mot pour les personnes qui sont plus jeunes, comme les enfants, les ados. Hein. Le monde nous dit, jour après jour après jour, le bonheur se trouve dans le péché. Il ne faut pas écouter à la Bible. La Bible n'est pas bonne. Faites ce que vous voulez. Mais observez ce qui se passe dans le monde autour de nous. D'accord? En général, les Français sont-ils un peuple content? On se plaint tout le temps. Et je peux dire la même chose sur les Américains. Donc je ne veux pas seulement parler des Français, mais on est en France. Les Français, en général, les Français, ils sont un peuple qui sont pleins de paix. Tranquille. Non. France consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments pour être tranquille, n'est-ce pas? Les Français sont-ils remplis sont-ils contents avec ce qu'ils ont? Non. En fait, les chrétiens qui sont là, les non-chrétiens, c'est un mensonge de penser que si je fais ce que je veux, je serai content. Des conséquences sont dures et sévères pendant la vie, et après la vie, il y aura le jugement. Et ça, c'est encore pire. C'est d'être jugé par le Dieu juste. C'est, si vous voyez les hommes qui promettent beaucoup, hein, comme les hommes politiques, donnez-moi votre vote et je ferai tout, hein, il ne peut pas le faire. Et si vous trouvez un homme qui promet, une femme qui promet tout, faites attention. Faites attention. C'est la séduction. Il y a aussi un quatrième caractère des faux docteurs, ils sont cupides. D'accord? Ils veulent l'argent. Et beaucoup, beaucoup d'argent. Je dirais encore une fois, j'ai déjà dit ici, que la Bible enseigne que c'est juste et droit pour une église de soutenir son pasteur si possible. Ça, c'est juste. D'accord? Je dirais aussi que je prends aucun d'argent de cette église. D'accord? Je reçois rien. Là, il reçoit rien. Mais il a le droit, en tant qu'un ancien, d'être remboursé, donc, quand même, pour ceux qui dépensent pour l'église. Mais ça parle plus de ceux qui sont soutenus par l'église. Ça parle des gens qui disent, moi, je prêche seulement si je reçois suffisamment d'argent. Je vous rendrai visite si vous payez. Il faut donner beaucoup, beaucoup parce que le pasteur doit avoir une grande voiture. Il doit avoir une grande maison pour démontrer au monde que Dieu est le roi. D'accord? Ça, c'est la cupidité, hein? L'avarice. Et si vous trouvez un homme, une femme, qui parle tout le temps de l'argent, qu'il faut s'aimer avec l'argent pour être riche après, faites attention. Parce que Paul nous dit, si vous trouvez quelqu'un qui enseigne quelque chose, c'est écrit ici, dans le texte, il dit quoi? C'est le verset 11. Enseignons pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il dit ce qu'il ne faut pas dire pour gagner l'argent. Si vous voyez une doctrine, un mouvement, une église qui est comme ça, ça c'est un danger. Un danger pour l'église et un danger pour nous-mêmes, chacun. Donc, une cinquième chose. Ils sont impurs. Regardez la vie. Regardez la vie. La vie d'un vrai serviteur de Dieu n'est pas parfaite. Non? Je l'avoue, hein? J'ai pas une vie parfaite chez moi. Je pêche et je pêche beaucoup. Je confesse et je dois confesser beaucoup. Mais au moins, dans un vrai serviteur du Seigneur, vous trouverez un homme qui veut être pur et qui travaille d'être pur. Il évite les choses qui ne sont pas pures. Il essaie d'ajouter à sa vie les choses qui sont pures. Et vous avez eu en Robert un bon exemple d'un homme imparfait qui voulait être pur, n'est-ce pas? Pendant plus que 20 ans, il était ici. Pas des histoires, pas d'impurité, un homme juste et droit. Et ça, c'est ce que vous avez en Allah aussi. Ça, c'est ce que je veux être aussi. Mais si vous regardez les hommes, et ils prêchent beaucoup de choses, ils disent beaucoup de choses, mais leur vie à eux ne sont pas pures en ce qu'ils font pour leur divertissement, quoi. Leur relation avec les femmes qui ne sont pas leurs femmes. S'ils sont impurs, attention, c'est un danger. Un danger. Et ceux qui prêchent, probablement n'est pas le vrai évangile. Nous devons faire attention en tant qu'une église, en tant que chrétien. Il faut faire attention parce que Paul dit qu'il y a des conséquences. Et quelle est la conséquence, quel est le résultat d'une telle menace? D'accord? Ce sont les familles bouleversées. Si vous regardez ce que fait le faux enseignement, il bouleverse les familles. Il faut regarder d'abord ce que dit, ce que signifie ce mot bouleverser. C'est le même mot utilisé quand Jésus est entré dans le temple. Il a chassé les changeurs de monnaie. Et qu'est-ce qu'il a fait avec leur table? Il les a renversés. D'accord? Ça c'est le mot physique. Et si on prend la signification métaphorique, vous avez les familles qui étaient tous à table, assis, tout va bien, et tout d'un coup, la table est renversée, toutes les chaises sont renversées, et la famille se trouve par terre. Ça, c'est la conséquence de la fausse doctrine. C'est grave. Parce que pensez aux familles. Bon, à cette époque-là, ça peut parler des parents avec les enfants, avec les serviteurs, le grand-maman, grand-papa, bon, on ne sait pas. Mais pensez, il y a les jeunes dans les familles qui sont blessés. Et je connais des personnes, des jeunes, ils ont été blessés par une mauvaise doctrine quand ils étaient jeunes et maintenant ils ne peuvent pas entendre le mot évangile, Bible, Dieu, sans être plein de colère, plein de blessures. Je connais des adultes aussi qui se trouvent dans la même position. Ils ne peuvent plus voir ce qui est vraiment dans la Bible parce qu'ils sont méfiants. Ça, c'est ce qui arrive avec la faux enseignement. Faites attention, nous devons faire attention, c'est grave, les conséquences sont graves. On a aussi les personnes qui sont détournées de la vérité. Il a dit, il faut les enseigner afin qu'ils ne détournent pas. On a des personnes qui quittent, qui abandonnent ce qui est vrai à cause de la fausse doctrine. Enseigner dans la Bible. Est-ce que ça c'est grave? Non, oui. Parce que si on n'est pas dans la vérité, on est où? Dans l'erreur. Et c'est vrai que dans la vie, parfois, on peut être dans l'erreur sans être vraiment, sans avoir beaucoup de conséquences. Par exemple, à l'école, si on ne fait pas un problème, on trouve des solutions, bon, c'est pas grave, franchement. On est à C1, on a des années avant nous. Mais si on se trompe avec les impôts, on se trompe plus que 10%, après on aura des problèmes avec le gouvernement qui va dire qu'il faut payer avec l'intérêt, n'est-ce pas? Et ça monte rapidement. Donc on a des personnes qui sont détournées de la vérité. Et ça, c'est grave. Et ensuite, on a les personnes qui adoptent une foi malsaine. Il dit, c'est pourquoi reprendre-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. D'accord, la foi ici, je pense, la foi ici ne signifie pas notre propre croyance à nous. C'est une façon de parler de la doctrine chrétienne, d'accord? Le message de Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a des messages différents qui s'appellent l'évangile? Il y a des évangiles qu'on marcelle. C'est comme on prend un produit, un médicament, et le médicament, en fait, est marcelle, ça va apporter quoi? La douleur, les conséquences graves pour notre physique et même parfois la mort. Et c'est la même chose avec la doctrine. Si on adopte une foi, un message qui est malsain, on va se trouver où? transfert à l'hôpital et pas dans le cimetière. Quand on parle de la foi,
on doit faire attention parce que les conséquences, le résultat de la menace, c'est grave.
C'est grave.
Mais quel est le remède? D'accord? Comment lutter contre la fausse doctrine, Les anciens enlèvent leur droit d'enseigner. D'accord? Il n'est pas le droit à tous d'enseigner dans l'Église. Et dans le texte, il utilise un mot très très fort. Il dit, le verset 11, auquel il faut fermer la bouche. D'accord? C'est un mot utilisé pour les animaux. Quand on met quelque chose sur le... C'est pas la bouche, c'est le... C'est quoi un animal? C'est pas très gentil de dire quelqu'un... On dit ferme la bouche, mais si le gol, on met quelque chose sur le gol pour le protéger. La semaine dernière, je suis allé à Thionville, c'est à côté de Luxembourg, dans le train, dimanche et jeudi. Ça marchait bien cette fois-là. Et dans les gares, j'ai vu plusieurs chiens, des gros chiens, et chacun avait quelque chose sur le gol pour protéger les autres. Paul dit, si vous voyez un homme, une femme qui était un faux docteur, fausse doctrice, il faut les fermer la bouche. Bien sûr, je ne pense pas qu'il veut qu'on le prenne littéralement dans le sens qu'on fait comme ça. D'accord? C'est pas physique. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit, vous n'avez pas le droit de partager ces idées ici. L'Église a le droit de le dire. D'accord? On a le droit, en fait, on a l'obligation d'interdire que les personnes partagent les fausses doctrines dans notre Église. D'accord? C'est écrit ici. La deuxième chose, les anciens font une confrontation sévère. Ils disent, le verset 13, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprendre-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. On ne fait pas une confrontation sévère parce qu'on veut être sévère. En fait, on veut arriver à avoir un bon résultat. La foi saine, n'est-ce pas? Et ce matin, j'étais en train de réfléchir, j'ai pensé à... Quand j'étais au lycée, et aux États-Unis, les lycées et les collèges, souvent, ils ont des équipes de basket, de foot, qui jouent en tant qu'une école contre les autres écoles. Et je jouais le basket pour cette école, et on aimait jouer. Mais le problème, c'est qu'on aimait aussi être, on était très égoïste, on aimait la gloire. Et une fois, je me souviens, on a joué et dans les équipes de basket, normalement, on a suffisamment de personnes d'avoir deux équipes, d'accord? On a le premier, l'équipe A, qui est composée de 6 personnes, les 5 qui jouent avec un remplaçant. Et on a l'équipe B, qui est en train d'être formée. Normalement, ils sont plus jeunes, d'accord? Et l'équipe A, nous aimions jouer tout le temps, on était vraiment déçus et parfois même fâchés quand l'entraîneur a dit, bon, c'est fini pour toi, Michael, tu es là et l'un d'équipe B, il va jouer. D'accord? Et une fois, pendant le match, on a dit, ah, je veux pas. Et après, l'entraîneur, il nous a reproché sévèrement. Parce qu'il a dit, vous êtes égoïste, vous ne pensez pas à l'équipe, vous ne pensez pas aux autres, vous pensez seulement à vous. Et il avait raison. Et il nous a repris, et en fait, après, nous avons marché mieux en tant qu'une équipe. Dans l'Église, parfois, il faut être sévère et dur. Et ça va à l'encontre de notre époque, n'est-ce pas? On veut tous être très gentils, de rien contre moi.
vous pouvez suggérer les choses, mais dites-moi pas ce que je dois faire. Non, on ne fait pas ça. Dans l'église, il faut le faire. Il faut être parfois sévère, mais avec amour qui nous pousse à désirer pour les autres la foi sainte. Vous voyez, parfois les anciens et même l'église doivent faire une confrontation sévère. Et c'est les anciens exhortent selon la sainte doctrine. Pourquoi on prend le temps pour enseigner chaque dimanche? Pourquoi on a pris, maintenant c'est plus que 30 minutes pour enseigner la Bible? Et après, on aura une classe biblique. Pourquoi? Parce que la seule façon de contredire la fausseté, c'est de dire ce qui est vrai. J'ai écouté la prédication cette semaine et après, un homme, il a prêché après dans la maison d'une famille de l'église. Il avait eu un visiteur ce jour-là et il a dit, après, il a dit, c'était intéressant, mais votre pasteur, il ne connaît pas que normalement, il faut prêcher que 10 minutes, hein. Que 10 minutes, ça suffit. Bon, ils ont rigolé, mais pourquoi pas que 10 minutes? Parce que normalement, ça prend, il faut plus que temps pour bien comprendre ce que dit la Bible. Parce qu'on ne veut pas s'appuyer sur ce que Michael dit. On ne veut pas s'appuyer sur ce que Lala dit. On ne veut pas s'appuyer sur ce que Robert a dit. On veut s'appuyer sur ce que la Bible dit. Et ça prend l'effort. D'accord. Donc, on a vu l'identité de l'enseignement qui est faux. C'est du syncrétisme. Quelles sont les conséquences? Ils sont graves. Ils sont graves. Les familles sont bouleversées. Les personnes prendre un mauvais médicament. Et quel est le remède? Parfois, il faut dire, arrêtez-vous, vous n'avez pas le droit de parler. On les confronte sévèrement avec la vérité et on enseigne ce qui est vrai à l'Église. Je veux terminer la conclusion avec quelques idées, hein, quelques exemples de ce qui est le syncrétisme. Et on va commencer par le passé, d'accord? Dans le passé, au début, il y avait quelque chose qui est arrivé, et c'était l'évangile plus l'État. D'accord? On avait eu un mariage entre la religion et l'État romain. Et on avait eu ça ici en France, n'est-ce pas? C'est pas bien passé. Ça, c'est le syncrétisme. On mélange notre gouvernement, notre puissance physique, notre pouvoir gouvernemental avec l'évangile, et maintenant on a un grand problème. Et même aujourd'hui, je vois en France les conséquences de ce péché du passé. Parce qu'on se méfie de l'autorité de l'Église. Pourquoi? Parce que c'était vraiment abusé dans le passé. Un deuxième exemple qui vient du passé. L'évangile plus le judaïsme. D'accord? Il y avait des personnes qui sont appelées les ébionites. Et ils voulaient dire, d'accord, on accepte que Jésus est un homme, il est le Messie, on accepte tout. Mais il n'est pas divin. Il n'est pas Dieu, il n'est pas né vierge, parce qu'il ne pouvait pas accepter en tant que juif qui disait au fond qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Jésus peut être Dieu parmi nous. C'est un mélange du judaïsme, de la judaïsme avec l'évangile. On avait l'autre côté aussi, le syncrétisme du passé, on avait l'évangile plus la philosophie grecque. La philosophie grecque disait quoi? Ce qui est matériel est mauvais. Le corps, manger, les plaisirs qui viennent avec le corps, tout cela est mauvais, on ne peut pas accepter un Christ qui est vraiment physique, qui avait vraiment un corps, qui avait vraiment le plaisir de manger, de boire. Donc, ils ont dit, ils sont appelés les docétiques, hein, parce que docéo, dans le grec, ça veut dire quoi? Sembler. Il semblait être un homme, mais il n'était vraiment pas un homme, il était plutôt un fantôme, quoi. Ça, c'était le mélange de l'évangile plus la philosophie grecque. Ça, c'est un problème. Parce que si on n'a pas un Jésus qui est vraiment physique, un homme, on n'a pas le salut. C'est écrit en hébreu. Maintenant, on va passer au présent. Hein. Le syncrétisme du passé et du présent. L'évangile plus la religion locale. D'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé très souvent dans l'histoire de l'Église. Et surtout, l'Église catholique romaine était vraiment douée avec ça. Ils arrivent, ils notent les pratiques des gens. Ils disent, d'accord, il faut louer Jésus-Christ, mais vous pouvez le louer quand vous louez tel et tel Dieu. On peut mélanger le christianisme avec l'animisme. On peut mélanger le christianisme avec d'autres choses, c'est vrai. Mais ce qu'on arrive à voir, c'est une troisième chose. Ce n'est plus le christianisme, ce n'est pas l'animisme, c'est une troisième chose. Mais si nous croyons vraiment ce que dit Jésus, qu'il est le seul chemin, on ne peut pas permettre ce genre de choses. Mais nous, hein, chez les évangéliques, est-ce qu'on fait le syncrétisme aussi? J'ai peur que oui. On a le syncrétisme courant qui est l'évangile plus le matérialisme. D'accord? On a déjà mentionné ça un peu, mais on prend le rêve américain. On ajoute un peu de Jésus, et qu'est-ce qu'on a? Jésus veut que vous soyez riches, en bonne santé, et vraiment beau et belle. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. C'est le syncrétisme. On prend notre désir naturel d'avoir la richesse. Parce qu'avec la richesse, on peut acheter les jouets, on peut acheter la sécurité, on peut acheter la santé. Et on dit, oui, ça c'est ce que vous voulez. Donc, Dieu veut ça pour toi aussi. Et tout d'un coup, on a le syncrétisme. C'est pas bon. C'est faux. On a un sixième exemple. Quelque chose qui est courant, l'évangile plus la sensualité. Et par sensualité, je ne veux pas parler seulement des choses qui sont sexuelles, mais l'accent est mis surtout sur ce qu'on peut toucher, expérimenter. D'accord? Et ça, c'est ce que j'ai trouvé dans beaucoup d'églises aux États-Unis. Hein. Ils étaient l'église avec des personnes qui sont vraiment, ils aimaient Jésus-Christ, je ne doute pas. Mais l'accent s'est mis surtout sur l'expérimentation, les expériences. Est-ce que j'ai vraiment senti quelque chose à la dépit de la vérité? Et dans ces églises, et ces églises peuvent être modernes, ils peuvent être traditionnalistes, l'accent est mis sur ce qui produit en nous une certaine expérience. Un certain niveau de sensualité, et il faut faire attention. Parce qu'on veut quoi? On veut avoir vraiment Dieu au centre, et on ne veut pas être fixé sur nous-mêmes et nos sentiments. Parce que franchement, nos sentiments sont trompeurs. N'est-ce pas? Parce que parfois, j'ai beaucoup de peur. Et si j'écoute à ce sentiment-là, je vais être trompé, n'est-ce pas? Parce que qui est Dieu? Moi? Mon sentiment? Ou Dieu? Alors, j'espère que c'est dur, parce que mes sentiments changent tout le temps. Ils sont vraiment, vraiment flexibles, mes sentiments. Et la septième chose, d'accord, le verset 2. L'évangile plus l'égoïsme. C'est moi qui est au centre. Le message de l'évangile, c'est que Dieu veut que vous soyez heureux, que vous ayez du bonheur. Dieu existe pour vous, n'inquiétez-vous pas. Dieu veut que vous ayez tout ce que vous voulez. Est-ce que ça c'est vrai, vraiment? Est-ce que Dieu veut qu'on soit heureux? Oui. Est-ce que Dieu veut qu'on soit béni? Oui. Mais il veut tout cela pour sa propre gloire. Et parfois, il décide que ça, c'est la souffrance chez moi qui lui donne plus de gloire. Et comment je dois répondre? Je dois dire, t'es Dieu, t'es bon, je l'accepte. J'avais un ami j'étais un témoin dans son mariage. Il était marié pendant 10 années, il avait 4 enfants, et tout à coup, il a dit, je vais divorcer. Il n'écoutait pas. Il ne voulait pas rester. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait, je veux que je sois quoi? Heureux, et je ne suis pas heureux où je suis. Je cherche ailleurs. Ça, c'est l'égoïsme mélangé avec l'évangile. Et en fait, c'est une fausse doctrine. Je voulais qu'il reste avec sa famille et apprendre comment être content et heureux dans cette situation, parce que c'est le péché qui empêche. C'était le péché qui empêchait son bonheur dans cette situation. Et huitième, le syncrétisme courant, l'évangile plus le conservatisme. J'ai parlé beaucoup des personnes qu'on peut dire, ils sont des libéraux, des libéraux, quoi. Mais il y a ce truc très bizarre. On peut mélanger le conservatisme avec l'évangile et arriver à voir le syncrétisme. On ne change rien, parce que ça, c'est l'évangile. Et en fait, c'est quoi? C'est les traditions d'âme. Et on commence à refaire comme les Juifs ont fait au début. Non, les traditions. On les garde. On ne peut pas changer ça. Non, l'heure. On ne peut pas changer l'heure du culte. 10h30, c'est écrit en Lévitique. Je suis certain. Non. On change. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont plutôt liées à nos cultures qu'à la Bible. Et on dit non. Donc, chez moi, aux États-Unis, d'où je viens, c'est les conservateurs sont ceux qui disent on ne peut pas être chrétien et accepter telle et telle position politique. Ah bon? D'accord, je ne savais pas que c'était écrit comme ça. Ça, c'est en fait, c'est le conservatisme. Ils ne voulaient pas changer leur culture. Mais les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. On doit faire attention, vous et moi, parce qu'on est tenté tout le temps d'ajouter les choses. C'est-à-dire, c'est l'évangile plus. Ici, on ne dit pas l'évangile plus les œuvres. Non, 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 on est des protestants. On aime bien la justification par la foi, et merci Seigneur pour ça. Mais sommes-nous en train de mélanger l'évangile avec autre chose? Matérialisme, sensualité, l'égoïsme, conservatisme, la philosophie de postmodernisme. Vous pouvez croire ce que vous voulez, moi je crois ce que je veux. Il n'y a pas des vérités absolues. Bon, on peut le faire facilement dans un milliard d'aspects différents de notre monde. Ce qui est important, c'est que les anciens enseignent que la vérité. L'Église adopte que la vérité. Et quand on est confronté avec la fausse doctrine, soit dans l'église, soit dans d'autres églises, soit dans, sur la radio, sur l'internet, la prédication. On doit faire croire. Il faut juger, il faut discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que les conséquences de la mauvaise doctrine sont graves. Bouleversées, détournées de la vérité. Et on prend une mauvaise doctrine.